Radio Kapi. Oh, Kapi.
Douze personnes tuées hier vendredi par des hommes en armes à Massomé, village situé à 7 km de Komanda dans le territoire d'Irumu. Nous sommes en Ituri. La société civile locale attribue ce meurtre à une nouvelle milice nommée Junia Tuna, mais l'administrateur du territoire qui s'est rendu sur place parle de bandits armés. Femmes rurales, nous parlons encore de cette journée internationale leur dédiée. Au Nord Kivu, les femmes rurales éprouvent des difficultés pour accéder aux soins appropriés, notamment en matière de l'accouchement sécurisé. Enfin, chaque année, le 15 octobre est aussi célébré la journée internationale de la canne blanche. Jean-Paul Ombeningango, aveugle de son état, est le porte-parole de l'Association pour l'intégration sociale des handicapés physiques. Il nous parle de l'historique de la canne blanche et l'importance de cette journée. Voilà tout pour les sommets. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, 12 personnes ont été abattues hier vendredi dans leur champ par des hommes en armes à Massomé, village situé à 12 km de Komanda dans le territoire d'Irumu. Les organisations de la société civile locale attribuent ce meurtre à une nouvelle milice dénommée Junia Tuna en gestation dans la région. Mais l'administrateur du territoire qui revient du lieu de drame parle plutôt d'un groupe de bandits. Martial Kizabiamungu.
Les victimes sont des cultivateurs qui ont été surprises dans leur champ très tôt matin des vendredis à Massomé, tout proche des villages Makayanga, dans la chefferie de Basili. Ces hommes munis d'armes à feu et de machettes ont tiré des coups de feu sur les zines et découpé les autres à l'arme blanche. Selon des sources locales qui citent des rescapés, au total, 12 personnes ont perdu la vie, ce qui a créé la panique à Makayanga et Komanda. Des organisations de défense des droits de l'homme attribuent ces tueries à une nouvelle milice à gestation dans la chefferie de Wallace et Vokutu. Mais pour l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, les auteurs de ces drames sont des victimes armées qui veulent créer de la confusion parmi les communautés qui vivent dans la zone. Le colonel Sirosiba précise qu'il y a une nouvelle milice dans cette région. Ce samedi matin, les activités économiques sont restées suspendues à Komanda Centre en compassion avec les familles des victimes. L'armée rassure que des opérations militaires seront menées dans la forêt des Massobé pour traquer ces malfrats. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Maïndoumbe, après plusieurs semaines d'accalmie depuis le déploiement des FARDC dans les territoires de Kwamout, les violences ont connu un rebondissement. Au moins 15 personnes ont trouvé la mort et plusieurs maisons incendiées lors d'une attaque dans la nuit de jeudi 13 octobre du village Moussiamou, localité située non loin de Kinsele, à la frontière entre Kinshasa et le Maïndoumbe. Plusieurs sources qui confirment cette information indiquent que le village a été attaqué par des hommes porteurs d'armes blanches, dont des flèches. Ces mêmes sources en appel à la responsabilité de l'État congolais. Les détails dans ces reportages.
D'après des sources concordantes, cette attaque du village Moussiamou par des hommes armés a eu lieu aux environs de 19h jeudi dernier et a occasionné plusieurs morts. Le secrétaire du chef du village de Kinsele qui livre le bilan de 15 morts témoigne que lui-même a perdu quelques membres de sa famille biologique lors de cette attaque. Il en appelle à l'intervention des autorités. Jodel Ewere est un habitant de ce village qui s'est lui aussi livré à Radio Okapi. Il dit avoir perdu sa maman ainsi que 5 autres membres de sa famille lors de ces violences. Il trouve inconcevable que jusque-là, l'État congolais n'arrive toujours pas à mettre fin à ces atrocités.
Ma maman biologique n'est plus en vie, est morte. Mon grand-père est mort, mon oncle est mort. Sa femme d'ailleurs, Nassi, est morte aussi. Son enfant est mort. Hormis ma maman biologique, j'ai perdu plus de 5 personnes au sein de ma famille biologique à Moussiamou. Nous avons commencé depuis longtemps de demander l'intervention de l'État congolais. Et l'État est garant d'assurer la sécurité de la population. Bon, si l'État est devenu démissionnaire, je ne sais pas comment on peut rappeler à l'État qu'il est garant d'assurer la sécurité de la nation. Depuis longtemps, il y a cela de temps, plus de combien de mois, quoi, les gens meurent et nuit. L'État lui-même dans ses yeux parce qu'il écoute.
Notez que cette information sur l'attaque du village Moussiamou est confirmée par plusieurs autorités officielles, notamment l'administrateur du territoire de Kwamout. Lui Ntoa promet d'en dire plus ultérieurement.
Au Nord Kivu, dans les territoires de Massissi, la société civile de Massissi déplore les déplacements massifs des populations de plusieurs villages des groupements Nyamaboko 1 et 2 dans le secteur Osso-Banyungu. C'est depuis la reprise des hostilités entre les groupes armés locaux qui s'accrochent presque chaque jour, il y a 2 mois maintenant. C'est notamment le groupe APCLS de Janvier Kalahiri et le NDC rénové de Mapenzi qui se disputent le contrôle de certaines agglomérations dans la zone. Bernardine Diambou.
Ce sont les populations des localités Minja, Kalambairo, Luando, Kishehe et Rutoboko dans les groupements Nyamaboko 1er et certaines localités de Nyamaboko 2. Ces habitants se sont vidés selon la société civile. Son président affirme que certains se sont dirigés vers Luke et Kazinga, toujours dans Nyamaboko 1er, tandis que d'autres sont allés vers Walikale. La même source précise que leur situation humanitaire est déplorable. Ces personnes ont trouvé refuge dans les familles d'accueil et dépourvues de tout. Leurs enfants ne sont pas scolarisés. Et d'ailleurs, selon Voltaire Batundi, les écoles de ces coins du territoire n'ont jamais ouvert leurs portes depuis leur entrée. La société civile dit craindre la propagation des maladies hydriques. Elle demande non seulement aux autorités militaires d'augmenter les effectifs dans la zone, mais aussi aux humanitaires de voir comment apporter de l'assistance à ces populations longtemps meurtries par la guerre à répétition. Goma Sifa Maguru, Radio Okapi.
On reste dans le Nord Kivu, cette fois-ci à Beni, vers l'immortalisation des victimes des massacres du 14 au 15 octobre 2014. La jeunesse lance le projet de la construction du mausolée de triste mémoire. Annonce faite jeudi dernier à Beni par la commission des jeunes initiateurs du dit projet. Pour les organisateurs, l'objectif est de protéger cet espace où une trentaine de victimes du début des massacres étaient inhumées et les sécuriser contre toute tentative de spoliation. Marc Marofimbo.
Les morts ne meurent que quand ils sont oubliés par les vivants. C'est la grande motivation qui a poussé les différentes couches de la jeunesse de Beni à initier ce projet d'immortalisation des victimes tombées lors du premier massacre au quartier Ngadi, en ville de Beni, la nuit du 14 au 15 octobre 2014, qui a coûté la vie à 39 personnes, des familles différentes. Accompagné par les autorités et les hommes politiques de la région, ce jeune vise d'élargir ce projet même dans le territoire. Louis Chabani, membre de cette commission, explique le bien fondé de ce projet.
Il faut qu'on précise une chose. À partir du moment où les gens continueront à nous soutenir, c'est très possible qu'on puisse atteindre les sites qui sont même dans les territoires, des sites qui sont hors les cimetières de Massiane. Nous sommes beaucoup plus revenus sur le fait d'immortaliser les nôtres et aussi de protéger cet espace contre une quelconque spoliation. Et on est parti très loin, que ça sera très fou que demain les générations qui viennent nous demandent que non, nos arrière-parents, ils avaient péri. Qu'est-ce qui prouve? Il est juriste, il sait que ce qui n'est pas prouvé, c'est que ça n'a jamais existé.
Déjà, une collecte volontaire massive des matériaux de construction s'est faite dans la ville par la population qui veut voir cette œuvre mémorielle se réaliser. Signalons que les familles des victimes s'alignent également derrière ces jeunes pour l'effectivité de ce projet avec leur contribution. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. Les femmes rurales éprouvent encore des difficultés pour accéder aux soins appropriés, notamment en matière de l'accouchement sécurisé. Le cas le plus récent est survenu il y a 3 jours dans la localité de Ngungu, un groupement Oufamandou 1er, en territoire de Massissi, à 80 km de Goma. Une femme a mis naissance, 5 bébés prématurés qui sont décédés quelques heures après, faute de bonnes conditions sanitaires. Cette question relance la proposition d'Eddy portant protection spéciale de la femme enceinte et du nouveau-né présenté à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu en octobre 2020. Plus de détails dans ce reportage.
Cet énième cas de décès maternel enregistré dans la zone de Massissi a suscité plusieurs réactions et indignations. Le médecin chef des zones de Kiroche justifie ces cas par la négligence et l'ignorance des femmes en milieu rural. Selon lui, nombreuses ne suivent pas les consultations prénatales et arrivent à l'hôpital trop tard. Ces responsables sanitaires reconnaissent l'insuffisance de la capacité de prise en charge dans les structures rurales qui ne facilitent pas le travail. Un élu local, Jean-Paul Lumbu, Lumbu avait déjà soulevé cette question dans une proposition d'édit à l'Assemblée provinciale en octobre 2020. Cet édit proposait, entre autres, la mise en place d'un fonds provincial d'appui à la femme enceinte du nouveau-né et de sa mère.
Cet édit était dédié essentiellement à la femme rurale parce que les conditions médicales des prises en charge pour la femme rurale, surtout dans la province du Nord Kivu. Dans cet édit, nous avons prévu des mécanismes de récolte de moyens de l'État, pour notamment la construction de nouvelles maternités dans chaque grande agglomération, la formation du personnel soignant, notamment les femmes sages et les infirmiers.
Goma Sifa Maguru, Radio Okapi.
Au Maniema, c'est le vendredi 14 octobre qu'a débuté à Kindu la campagne électorale pour les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de cette province, selon le calendrier publié dernièrement par la CENI. Cette période de campagne prend 3 jours, soit du 14 au 16 octobre prochain, et l'élection du gouverneur et son vice-gouverneur, le 18 octobre 2022, selon le communiqué de presse de la CENI du 23 septembre 2022. Florence Kizalunga, reportage.
Pour la première journée de cette campagne, 3 candidats gouverneurs ont présenté leur discours devant les députés provinciaux. Il s'agit de Boucher Imakula Corneille, Kaloumé Senga Senghor et de Tunda Kasongo Prosper. Les soirs après cette activité, à travers les réseaux sociaux, circulait déjà la décision du Conseil d'État suspendant l'exécution de la décision de la CENI convoquant la reprise de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Maniema après une requête introduite par les candidats Ndarabu Amourani Aruna pour irrégularité de ses calendriers. Contacté ce matin, les reporters de l'Assemblée provinciale du Maniema, Thierry Badisungu, affirme que jusque-là, l'Assemblée provinciale n'a pas été saisie officiellement de cette décision, d'où la campagne électorale se poursuit ce samedi avec 3 autres candidats, dont Hubert Kindanda Kishabongo, Ndarabu Aruna et Ombata Luata. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
On revient ici à Kinshasa. La taxe appelée redevance audiovisuelle était au centre des échanges entre les opérateurs du secteur des télédistributions et le ministère des Communications et Médias. Selon les dispositions légales, il est prévu que ces opérateurs payent cette taxe à la Radio-Télévision Nationale RTNC. Au terme de cette rencontre, Béli de Robert Mbunga, directeur général ad intérim de la RTNC, a affirmé que toutes les parties se sont engagées à signer le protocole d'accord qui pousse réglementer ce qui puisse réglementer cette redevance. Béli de Robert Mbunga est au micro de Paul Matendo.
Il est fait obligation aux télédistributeurs de pouvoir permettre à la RTNC de percevoir la redevance audiovisuelle auprès de leurs abonnés. Mais pour que cela se fasse, il importe que les télédistributeurs signent un protocole d'accord avec la RTNC. Et depuis pratiquement plus de 8 ans, la RTNC court derrière ce protocole d'accord pour des raisons diverses. Et avec l'avènement du ministre Patrick Muyaya, il s'est engagé, il s'est impliqué pour que finalement le télédistributeur puisse signer ce protocole d'accord avec la RTNC. Et nous sommes mis d'accord sur certains points qui nous divisaient ou qui posait des petits soucis. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater que nous tombons tous d'accord sur le principal terme de ces contrats.
Et puis en plus bref, ce 15 octobre, c'est aussi la journée mondiale du lavage de mains. En RDC, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a, dans un message vidéo sur les réseaux sociaux, rappelé le thème mondial de cette journée, unis pour une hygiène universelle de mains. Jean-Jacques Mbungani, s'adressant à toutes les couches de la population congolaise, notamment aux élèves, aux agents de la santé et aux chefs de ménage, a souligné l'importance de se laver les mains et à l'eau et au savon, un moyen le moins cher mais le plus efficace pour éviter plusieurs maladies diarrhéiques et respiratoires. Ces maladies, précise le ministre de la Santé, sont la cause des décès chaque année dans le monde de 3,5 millions d'enfants avant l'âge de 5 ans. Le lavage de mains à l'eau et au savon peut, dit-il, sauver plus de vies, surtout chez les enfants, que n'importe quel vaccin ou intervention médicale.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, les forces vives ont adopté une nouvelle charte de la transition et désigné le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, âgé de 34 ans. Ses responsables militaires étaient à l'origine du coup d'État qui a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo dans Miba il y a tout juste 2 semaines. Il avait alors assuré qu'il ne resterait pas longtemps, se bornant à assurer les affaires courantes. Mais depuis l'ouverture des assises vendredi matin, son nom semblait faire l'unanimité. Et puis au Cameroun, 3 ans après la tenue du grand dialogue national, la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest a gagné en complexité. L'octroi du statut spécial à ces 2 régions anglophones est loin de faire l'unanimité sur son efficacité à ramener la paix dans cette partie du pays où sévissent depuis 6 ans maintenant des groupes armés sécessionnistes.
L'invité.
Chaque année, le 15 octobre est aussi célébré la Journée internationale de la canne blanche. Nous recevons pour parler de cette journée le porte-parole de l'Association pour l'intégration sociale des handicapés physiques. Jean-Paul Ombeni Ngango, aveugle de son état, nous parle de l'historique de la canne blanche et l'importance de cette journée dans la sensibilisation du public, tant piéton qu'automobiliste, sur l'assistance aux aveugles. Il s'entretient ici avec Bernadette Ngango. Suivez.
Monsieur Ombeni Ngango, bonjour.
Bonjour.
Ce samedi, le 15 octobre, c'est la journée internationale des cannes blanches. Pour commencer, dites-nous d'abord, c'est quoi la canne blanche?
La canne blanche est un outil qui permet aux personnes ayant une déficience visuelle de se mouvoir ou de se déplacer sans être conduit par quelqu'un, ou ça les aide au fait d'être indépendants dans leur mobilité.
La canne blanche, derrière cette canne blanche-là, il y a une certaine histoire qu'on vous a déjà racontée. Et comment c'est arrivé?
En fait, son histoire a commencé depuis 1970, où l'Union mondiale des aveugles a vu que, en tout cas, les personnes ayant une déficience visuelle ne sont pas sécurisées dans les routes, tout ça. Alors, elle a jugé bon de proposer quelque chose comme une canne pour aider maintenant aux passants de découvrir que telle personne a une déficience visuelle et voir comment se comporter devant une telle personne lorsqu'ils sont en train de passer en route avec leur véhicule ou avec n'importe quoi qui peut déranger. Mais aussi, c'est aussi pour aider les personnes ayant une déficience visuelle de découvrir quelques problèmes qui peuvent être devant eux. Par exemple, s'il y a une pierre et un aveugle a une canne blanche, directement cette canne-là signalera qu'il y a quelque chose à éviter et directement il l'évite. Si il y a un trou, c'est d'eux-mêmes. C'est comme ça que la personne prendra un autre chemin.
Et pour vous, par exemple, qui avez ce déficit visuel, cette canne-là vous aide à quoi? Est-ce que le plus vous l'utilisez, est-ce que ça devient comme un autre membre pour vous et qui peut vous aider peut-être à identifier là où il y a un obstacle?
Je ne peux pas le considérer comme un membre, mais peut-être comme un œil, peut-être comme ça, parce que directement, ça me signale, dès que ça me signale qu'il y a quelque chose, directement, je prends un autre chemin et j'évite maintenant d'aller là où je sens qu'il y a quelque chose qui peut me nuire.
Et maintenant, revenons-en à la journée elle-même. Le 15 octobre, c'est la journée internationale de la canne blanche. Pour vous, cette journée-là, quelle importance exactement?
En tout cas, cette journée vaut parce que c'est surtout en RDC, beaucoup de personnes ne connaissent pas que les personnes ayant une déficience visuelle sont aussi des personnes comme les autres. Et dès qu'ils les voient en cours de route et par-ci par-là, donc ils n'ont aucun égard, aucune attention devant cette catégorie de personnes. Et ils peuvent même les cogner en cours de route, des véhicules. Il y a déjà même qui éprouvent même des accidents en cours de route. Parce que seulement, on ne connaît pas si telle personne est une personne à déficience visuelle ou pas. Donc, ces personnes ne sont pas sécurisées. Alors, c'est une journée pour maintenant sensibiliser la population sur les personnes ayant une déficience visuelle et comment voir comment les protéger en cours de route et partout où ils sont en train de passer. Et l'accessibilité, même ça ne se termine pas seulement sur l'accessibilité dans les milieux routiers, même dans des maisons, tout ça, est-ce que les bâtiments, tout ça, ça doit tenir aussi compte des personnes ayant une déficience visuelle. Donc c'est beaucoup plus large, si je peux le dire. Même la technologie va aussi loin pour en parler. En tout cas, c'est très large, même des téléphones qui sont utilisés, même des montres pour signaler même aux personnes ayant une déficience visuelle ou passer ou ne pas passer. En tout cas, c'est très vaste.
Mais cette technologie ici, au moins dans notre pays, c'est pas encore développée. Mais qu'est-ce que vous pouvez peut-être envoyer comme message en cette occasion et à la population, surtout ceux qui n'ont pas ce problème-là de déficit visuel?
Oui, bien sûr, cette technologie n'est pas développée. C'est pourquoi, d'ailleurs, je remercie beaucoup plus le CBM International, Christian Blind Mission, qui, à partir du projet qu'il exécute en collaboration avec ISHP, le projet Together for a Society Without Barriers, entendre par là, ensemble pour une société sans barrières, ça aide un peu les personnes ayant une déficience visuelle pour les apprendre comment utiliser cette technologie-là, afin que ces personnes ne puisse pas être déréquilé dans la technologie.
Monsieur Ombeni Ngango, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Voilà, fin de cette édition du journal. Mimi Kindo était à la manette, Pierrot et la Mésie la coordonnée, sous la supervision de Noéla Luzitu Kabambi. Merci de nous avoir suivis.